On va commencer Bezrat Hashem par le chapitre 51. Normalement aujourd'hui, on aurait dû faire un résumé sur.
C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs.
Voilà, on aurait dû faire normalement un résumé. J'ai pas écrit dans la SMS. On aurait dû faire un résumé sur les derniers chapitres, mais bon, avec toutes les occupations que j'ai eues dernièrement, j'ai pas pu le faire. Donc Bezrat Hashem, je m'arrangerai pour le caser dans un des prochains cours, puisque j'ai déjà bien avancé.
Bezrat Hashem. Un des prochains cours.
Bezrat Hashem. Donc aujourd'hui, on va démarrer directement le chapitre 51. Avant de démarrer le chapitre 51, le chapitre 51, on va démarrer Aïn Aleph. C'est la dernière ligne droite, Bezrat Hashem. Je vais prendre un peu de temps. Mais la dernière ligne droite, à mon avis, bon, à l'allure où on va, je pense qu'on en a jusqu'à un peu avant l'été, quoi. Pour finir, il nous reste 3 chapitres, mais bon. Donc c'est la dernière ligne droite, jusqu'à la fin du Tania. Et c'est des chapitres qui vont être très importants, qui vont être peut-être, à certains endroits ils vont être compliqués, mais ils vont être très importants parce que c'est ça ce qui va nous permettre de recomposer le puzzle du Tania. C'est comme ceux qui sont là depuis le début du cours du Tania se rendent compte que des fois on a du mal à voir où il veut aller, etc. Et c'est comme souvent quand on lit un livre ou quand on voit un film, c'est seulement à la fin qu'on comprend ce qui s'est passé. D'accord ? On n'arrive pas à comprendre au début, il y a plein de détails, etc. On ne voit pas où ça va. C'est seulement à la fin qu'on voit ce qui s'est passé. Donc là, l'Admor HaZaken, on va revenir sur une notion qu'on a étudiée dans le chapitre 35. Mais avant de parler du chapitre 35, je voudrais faire un petit point ce qu'on a expliqué dans le Tania jusqu'à présent. Le Tania se découpe en plusieurs paliers. En tout cas, la première partie du Tania jusqu'au chapitre 53, elle se découpe en plusieurs paliers. Le premier palier du Tania, du chapitre 1 à 17, on parle des deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Et donc, qu'est-ce que c'est le tzadik ? Qu'est-ce qu'un tzadik ? Qu'est-ce qu'un rachat ? Qu'est-ce qu'un benoni ? Comment on gère la guerre entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara ? Ah, il faut encore une autre table. D'accord ? Ça, c'est du chapitre 1 à 17. Ensuite, à partir du chapitre 18, on a donné des techniques. Du 18 au 25, on a donné des techniques pour combattre le Yetzer Hara. On va se rattacher quand on fera j'ai prévu un grand résumé à la fin du Tania, on fera un résumé en long, peut-être en un ou deux cours, pour tout repasser en détail. Donc, du chapitre 18 au 25, c'est là qu'on a commencé à parler de la notion de Messirut Nefesh. On a expliqué que si un juif est capable de faire Messirut Nefesh dans des cas extrêmes, en vérité, il faut être capable de faire Messirut Nefesh même dans des cas basiques de la vie. Ça, c'est du chapitre 18 à 25. À partir du chapitre 25, on a parlé de plusieurs problèmes qui peuvent déranger une personne dans son service à Kadosh Baruch Hu, comme la mélancolie, comme les malheurs qui arrivent à une personne du préserve. Donc ça, on a parlé jusqu'au chapitre 35. Donc on a parlé de divers problèmes qui peuvent nous déranger dans la vie, et comment les gérer. Donc on a parlé de beaucoup de choses au passage. Et à partir du chapitre 35, on est passé dans une deuxième phase du Tania. La première phase du Tania jusqu'au chapitre 35, c'était, on a parlé donc de l'âme divine, l'âme animale. Comment on va rentrer dedans ? Ah, d'accord.
On passe pas, non ?
Très bien. C'est pas David ? On est complet. Faisons une place à David. Première phase du Tania, on a parlé surtout du Bilvavra. Vous vous rappelez certainement que l'Admor HaZaken, au début du Tania, dit qu'il base tout le Tania sur un pasouk, un verset, que Moshe Rabbeinu il s'adressait au Bnei Israël. Il leur a dit « Tikarov elecha davar meod, beficha ou bilvavra la asoto ». Il dit que la chose est extrêmement accessible, donc le fait de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est accessible. « Beficha ou bilvavra », donc ça se trouve en nous, dans notre cœur, donc dans le combat entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. C'est ce qu'on a étudié donc jusqu'au chapitre 35, donc le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, le combat, comment gérer le combat, etc. Au chapitre 35, on s'est basé sur le combat. Et après, à partir du chapitre 35, on s'est focalisé sur le Lasoto. C'est quoi Lasoto ? On a expliqué qu'à part ce combat, qui est très important, mais on a essayé de comprendre où on va dans tout ce combat, à quoi ça sert. Et c'est là qu'on est rentré dans une longue explication que je vais résumer maintenant, avant de commencer le chapitre 51, dans laquelle on a raconté une histoire qui est ramenée dans le Zohar. Le Zohar raconte l'histoire suivante. Il dit une fois, il y avait Rav Amnuna Saba, qui s'est déplacé avec un de ses amis. Rav Amnuna, le grand-père, c'est déjà quelqu'un de très important. Quand on appelait quelqu'un le grand-père à l'époque, c'est quelqu'un de très important. Une fois, il s'est déplacé, donc ils étaient en voyage, ils arrivent dans une auberge. Donc ils arrivent, ils s'arrêtent, bon, ils s'apprêtent à manger quelque chose, ils n'avaient pas encore prié. Ils voulaient prendre quelque chose à boire, à manger, quoi, parce qu'ils étaient vraiment très fatigués du chemin. Et à ce moment-là, nous raconte le Zohar, il y a un Yenouka. Yenouka, ça veut dire un enfant, un petit jeune homme, vraiment un petit gamin, quoi, qui rentre de l'école. Apparemment, il rentre de l'école et il arrive dans l'auberge. Alors la mère, la femme aubergiste, elle s'adresse à ce petit enfant qui s'avère être son fils. Elle lui dit, dis bonjour au rabbin. Va leur dire bonjour, c'est des gens importants. Donc il s'approche d'eux. Et il leur dit, je ne peux pas vous dire bonjour, vous n'avez pas encore fait le schéma aujourd'hui. Alors il me répond, il dit, oui, tu as raison, on n'a pas encore fait le schéma, mais on va t'expliquer pourquoi on n'a pas fait le schéma. Parce que jusqu'à présent, on était occupé, et on est encore occupé à racheter un prisonnier. C'était une femme qui était prisonnière, donc on était quitte du Kriyat Shema. Mais ils lui ont posé la question, il dit, mais d'où tu sais qu'on n'a pas fait le Kriyat Shema? D'où tu sais qu'on n'a pas fait le Kriyat Shema? Alors il leur a répondu à la chose suivante. Il leur a dit, parce que je vois sur votre tête, il y a une lumière qui n'est pas là. Et bon, ils sont mis à discuter avec lui. C'est un petit gamin. Hein. Ils sont mis à discuter avec lui. Et à un certain moment, il y a Rav Avnos Sava qui fait une petite allusion à son ami. Et il lui dit, je crois que un revenant de New York. Bon, il faut rajouter une table, je crois. Hein. Il dit que Rav Avnos tourne vers son ami, il lui dit, je crois que cet enfant-là, Lav Min Barnash Inu. Je crois qu'il ne fait pas partie des hommes, il n'est pas humain, il n'est pas de chez nous celui-là, je ne sais pas ce qu'il a. Bon, et donc du coup, là-bas le Zohar il raconte qu'ils sont mis à discuter avec ce jeune homme. Ils sont mis à discuter, ils ont dit certainement il a des choses à nous apprendre. Donc ils sont mis à discuter avec lui, et ce jeune homme à un certain moment il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, vous avez certainement étudié ce que le roi Salomon il dit, que dans le Michelet, dans les Proverbes, il dit là-bas, Achacham enav verosho, chapitre 35. Achacham et Nav Berosho, que le sage a les yeux dans la tête. Alors il leur pose la question, il leur dit, et pourquoi, messieurs les sages, où on a les yeux si c'est pas dans la tête? Bon, alors ils lui ont dit, vas-y, explique-nous ce que tu veux dire. Il dit, moi je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi que le sage a les yeux dans la tête? Ça veut dire quoi les yeux dans la tête? Ça veut dire qu'il faut être prévoyant. Ça veut dire quoi prévoyant? Il leur a dit, en vérité, il faut savoir, hein, ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 35. On avait expliqué que la lumière de la Shekhina, c'est comme la lumière de la bougie. Et de la même manière que la bougie, c'était chapitre 35, de la même manière que la bougie, la lumière de la bougie, pour qu'elle puisse se maintenir, il faut une flamme, il faut, pardon, une mèche. Et s'il n'y a pas la mèche, ça ne tient pas, donc il faut la mèche et le combustible, donc la mèche et l'huile. La mèche et l'huile, grâce à ça, la flamme va tenir. Donc il leur a expliqué, c'est l'enfant donc il leur explique, il leur dit, de la même manière, la shrina ne peut résider sur l'homme, donc la shrina c'est la lumière, la flamme, elle peut résider sur l'homme que s'il fait les bonnes actions. Et les bonnes actions, c'est la mèche qui va retenir la flamme. Alors Bala de Morazaka, elle avait posé la question, elle a dit, mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi que pour retenir la mèche de la flamme de la Shekhina, il faut faire des bonnes actions. Nous, on a toujours cru que qui c'est qui communique avec Dieu, c'est la Neshama. C'est-à-dire qu'il y a la Neshama, Dieu communique avec la Neshama. Donc bon, on a compris que la flamme, c'est la Neshama, elle communique avec Dieu et c'est tout. C'est quoi cette histoire des bonnes actions? Et là, on est en train d'une longue explication. On avait expliqué le point suivant. On avait dit ça, on avait fait plusieurs cours dessus. On avait amené deux cas. On avait dit quand il y a une personne qui va aimer une autre personne très fortement. Il ne va rien faire pour lui, mais il va lui montrer qu'il l'aime très très fort. Bon, ça c'est une première catégorie. Vous avez une deuxième catégorie de personnes qui ne va pas montrer ses sentiments. Il ne montrera pas ses sentiments. Il ne va pas montrer qu'il aime. Mais il va faire quelque chose pour la personne. Il va aller lui acheter une bouteille de lait, il va aller lui descendre la poubelle ou lui faire ce que tu veux. Donc on a dit que théoriquement, quand on s'imagine les deux, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit lequel va développer plus d'amour? C'est évident, c'est celui qui montre clairement qu'il y a un sentiment d'amour. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que c'est une erreur. On avait dit que c'est de la même manière quand un homme dit, par exemple, il dit « j'aime mes enfants ». Ça veut dire quoi quand il dit « j'aime mes enfants » Quand il y a un enfant qui vient naître, il dit « je l'aime ». Qu'est-ce que tu aimes? Il aime quoi? On avait expliqué qu'à partir de quel moment on peut dire qu'on aime quelqu'un, on aime quelque chose, c'est quand on s'est investi pour quelque chose, c'est quand on a donné pour quelque chose. Même si, alors, chacun avec ses efforts. Si quelqu'un il aime pas descendre la poubelle et qu'il va descendre la poubelle, alors il peut dire qu'il a donné. Ça s'appelle qu'il a donné quelque chose. Donc on avait pris ces deux cas. On avait dit tu peux avoir un homme qui dit à sa femme toute la journée je t'aime, mais en vérité, quand il dit je t'aime, c'est-à-dire qu'il se fait un kiff. Je veux pas rentrer dedans. Alors qu'on a dit que
Je m'aime avec toi.
Avec toi. Grâce à toi. À cause de toi.
Mais ça dépend.
Mais on a expliqué que la vraie manière de montrer à une personne qu'on l'aime, c'est quoi? C'est quand on va faire quelque chose pour la personne. Et avec ça, on a expliqué, si je me rappelle bien, vous avez, M. Bellassène avait dit que quand il avait eu son premier enfant, je crois, hein, c'est ça ? Vous avez raconté que vous étiez dit, on vous a posé la question, vous a dit, est-ce que tu l'aimes ?
J'en sais rien.
C'est après, quand on se lève la nuit.
Quand on se lève et tout.
Bon, pour le premier, on se lève la nuit, après...
Non, je sais Si on veut qu'il y en ait d'autres derrière, il faut assumer, hein.
C'est une plaisanterie. Donc,
la femme sur ça, elle a l'avantage sur nous, c'est ce que je disais.
Oui.
Elle a porté l'enfant pendant 9
bien
mois.
Sûr, bien sûr, bien sûr.
Donc elle a donné pendant 9 mois.
Bien sûr.
Donc elle, quand elle dit elle l'aime,
elle l'aime vraiment.
Elle sait de quoi
elle
parle.
Elle a donné.
Mais non.
Donc on a expliqué, c'est ça le là, ce tout. Quant à Kadosh Baruch Hu, mis à part le Bilvafra, qu'on a expliqué jusqu'au chapitre 35, qu'il y a un combat, qu'il faut tout faire pour aimer à Kadosh Baruch Hu, etc. Mais en vérité, il faut savoir que finalement, comment on va être capable de dire qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est quand on va donner quelque chose à Kadosh Baruch Hu. C'est pas seulement quand on va l'aimer, c'est quand on va faire quelque chose pour Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était le là, ce tout. Bon. Donc le point qui était revenu de là-bas, c'est quoi ? Dans le chapitre 35, et c'est le point sur lequel on va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que la Shrina ne peut résider sur l'homme seulement si l'homme fait des bonnes actions. Les bonnes actions, c'est le combustible et la mèche, d'accord ? Sans rentrer maintenant dans les détails, la différence entre le combustible et la mèche, mais c'est le combustible et la mèche qui vont maintenir la Shrina en bas. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Maintenant, il y a un an et demi, Jacob avait posé une question.
Parce que quand il pose une question, ça marche.
Il y a un an et demi.
Non, en étant en septembre, il y a quand même posé une question. Il avait dit, oui, il avait dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que grâce aux bonnes actions, donc grâce à nos mitzvot, on va faire descendre la lumière de la Shekhina ? Il avait posé la question, il avait dit, mais moi je croyais que la Shekhina était omniprésente. Que la Shekhina était partout. D'accord ? Que la Shekhina est partout, ça veut dire quoi que tu lui en fais descendre la Shekhina ? Mais la Shekhina, quand tu dis que Dieu y réside partout. Est-ce que Dieu est limité par un endroit ? Ça veut dire quoi que la Shekhina est dirigée ? Apparemment, on fait descendre la Shekhina avec la flamme, etc. Mais même quand il ne fait pas les bonnes actions, de toutes les façons, la Shekhina est là. La question va être peut-être, est-ce que moi, je vais le sentir ou pas ? Ça, c'est une autre question. Mais c'est pas ça ce qu'il a dit, le Yenouka. Le petit enfant, c'est pas ça ce qu'il a dit. Il a dit, comment on maintient la Shekhina ? C'est grâce à la flamme. C'est grâce, pardon, aux bonnes actions. C'est faux ? A priori. Les bonnes actions. La Shekhina est de toute façon toujours là. Alors, quand Yaakov a posé cette question, je lui avais dit qu'on allait étudier ça vers la fin du Tania. C'est maintenant.
Ah bah, un an et demi après.
La révélation.
Il est resté quand même, hein ?
Il est passé. Il a attendu. Mais on finira par traiter toutes les questions. Hein.
Voilà. C'est la force du Tania.
Et là, vous allez voir, à partir du chapitre 51, vous allez voir comment petit à petit, on va commencer à recomposer le puzzle. Parce qu'après, parce qu'après, chapitre 35, on avait commencé à expliquer la soto, l'importance de l'action. Après, on avait expliqué Dirab et Tartonim, que le but du monde, c'est de faire une demeure ici-bas, et que ça, c'était que le but du monde, c'était de le pousser à l'avènement messianique, où on pourra voir ça de nos yeux. Et comme ça, il y avait toute une structure. Bezrat Hashem, on va la revoir tranquillement. Donc là, maintenant, je vais prendre les mots. Ve'iné, page Aïnales, chapitre 51. Ve'iné, l'étosefet biur, lachon ayinuka dil'el. On va essayer d'expliquer un peu mieux ce qu'a dit le Yenouka. Donc le Yenouka, c'est le petit jeune homme, là. D'accord ? On l'appelle toujours le petit jeune homme. C'est parce que c'est comme ça que le Zohar l'appelle. D'accord ? Donc pour comprendre ce que dit le Yenouka, hein, apparemment le Yenouka a dit que, il leur a dit au Chachamim, il leur a dit, sachez que si vous voulez maintenir la Shrina, il faut faire les bonnes actions. Les mitzvot. Et c'est ça ce qui va amener, en d'autres termes, c'est ça ce qui va amener Mashiach. Alors, ça veut dire quoi qu'on va maintenir la Shrina ? Donc la question de Yaakov. On va d'abord expliquer un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire Ashrat Ashrina, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la Shrina réside. Et là, on va parler, je vous avais dit que ça allait avoir un rapport avec le fait que la Shrina est la synagogue. D'accord, c'est dans le SMS. Ah, pas tout le monde l'a reçu, le SMS. Alors. Shaita Shora Bevet Kotche Kodashim. Maintenant, vous allez recevoir. Shaita Shora Bevet Kotche Kodashim. Donc on va essayer d'expliquer un peu mieux la Shrina. Et alors bien sûr, on dit que la Shrina elle réside dans les synagogues, que la Shrina réside dans certains endroits, mais le top du top de la Shrina, c'est quoi ? Dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qui fait que le Saint des Saints, le Kodesh à Kodashim, l'endroit où le Kohen Gadol rentre une fois par an, qu'est-ce qui le différencie des autres endroits ? C'est que là-bas on dit, là-bas il y a la Shrina. Mais c'est quoi là-bas la Shrina ? La Shrina elle n'est pas partout. Vechen, kol makom ashrat ashrina. Ainsi que tout endroit dans lequel la Shrina réside. Donc par exemple une synagogue. Par exemple, chez moi à la maison, quand je vais dire un Dvar Torah, ah là est la Shrina, là. C'est-à-dire quoi la Shrina? Elle est toujours là la Shrina. Dieu est toujours là. C'est-à-dire quoi que la Shrina est là? Maïniano, qu'est-ce que ça veut dire? Allô, a priori, là c'est pas seulement Yaakov qui pose la question, c'est le prophète Isaïe. Allô, Mlok, à l'arrêt de Kvodo.
Le prophète, alors, des lettres, au moins il peut dire des versets, mais c'est la même question.
Ouais, chez moi, bon,
Allô, a priori, mais l'eau, quoi, l'arrêt de Kvodo.
Sa gloire remplit le
prophète
monde.
Isaïe nous dit clairement, il nous dit que Dieu, la gloire de Dieu emplit tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu se trouve dans un certain endroit. C'est pas que Dieu se trouve dans les synagogues, Dieu se trouve pas dehors. Dieu se trouve partout. On aurait pu penser que Dieu se trouve quand on l'appelle. Si tu fais une mitzvah, il vient. Mais tu fais pas de mitzvah, il est pas là. On aurait pu penser comme ça. Le prophète Isaïe nous dit, il dit pas du tout. Mlo kol aretz kvodo, Dieu se trouve partout. Même si les gens qui font des averot, même dans les boîtes de nuit, Dieu est là. Maintenant, s'il est bienvenu ou pas, c'est une autre question, mais Dieu est là. Très bien. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la Shrina est attirée par les bonnes actions? C'est-à-dire quoi, attirée? Elle est toujours là. Velet atar panouimine. Ça, c'est le Zohar. Le Zohar, il nous dit la chose suivante, il nous dit let atar panouimine, ça veut dire il n'y a pas d'endroit panouimine qui est vide de la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne se trouve pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'était une des grandes, comme on a expliqué il n'y a pas longtemps, c'était une des grandes machloquettes, si on peut dire, entre le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna. Une grande machloquette à savoir, hein, est-ce qu'on peut dire que Dieu se trouve partout dans le monde? Le Baal Shem Tov, il disait que Dieu se trouve partout dans le monde et Dieu gère tout ce qui se passe dans le monde. Le Gaon de Vilna, il avait une phrase très célèbre qui disait la chose suivante, il disait, d'après moi, Dieu ne peut pas se trouver dans une toilette. Comme ça, il disait. C'est une phrase très très célèbre qu'il disait. Donc c'est une machloquette, en vérité, comment comprendre le Zohar? Et comme ce qu'on avait expliqué, que le Maasé, avec le temps, on a vu que l'élève principal du Gaon de Vilna, qui est Rabbi Chaim de Volozhin, en tout cas sur ce point-là, c'est la manière comment il a expliqué dans son livre Nefesh HaChaim, en chapitre 4, si je ne me trompe pas, Shahar Akdush là-bas, chapitre 4, là-bas, la manière comment il explique comme le Baal Shem Tov, avec une petite nuance quand même, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas comme son maître le Gaon de Vilna. Alors, il dit pas clairement qu'il va à l'encontre de son maître, mais il dit comme son maître. Bon, ça c'est un autre. Donc là il dit, et c'est apparemment c'est ce que le Zohar nous dit, le Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar nous dit clairement, l'aide atar panouimine. Il n'y a aucun endroit qui est vide d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, ce sujet-là, c'est un sujet qu'on pourra développer plus en longueur quand on arrivera à Yigaret HaKodesh.
Au final, il n'y a pas un endroit où il y a un endroit?
Au final, il n'y a aucun endroit où Dieu ne se trouve pas. Ça n'existe pas. D'accord. Donc il dit, la question qu'on se pose ici, donc n'oubliez pas la question. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que grâce aux bonnes actions, quand on fait une mitzvah, on fait descendre Akadosh Baruch Hu. En vérité, c'est une idée qui revient très souvent, ça, dans la Torah. On dit tu fais une mitzvah, tu as mis des tefillin, des étincelles de kedusha, tu les fais descendre. D'accord? Donc cette question-là, on aurait dû se la poser depuis le début du Tanya. Ça veut dire quoi, on fait descendre Dieu? Mais Dieu n'est pas partout. C'est quoi cette histoire? Alors, il explique la chose suivante. Il dit Ar Aïmian. La réponse à cette question est la suivante. Kedirtiv, comme c'est écrit, Omipsari et Chézé Eloka. Iov, Job, celui qui a le plus souffert, que Job, il a écrit dans son livre, là-bas il dit la chose suivante, il dit Omipsari et Chézé Eloka, il dit de ma chair, je vois Dieu. Alors, dans le pshat, dans le sens simple, ce que Iov veut dire là-bas, ce que Job veut dire, il raconte, il dit qu'il est en train de parler avec quelqu'un, et il est en train de lui expliquer que moi, pour sentir que Dieu, pour sentir que les souffrances que Kadosh Baruch Hu est en train de m'envoyer, j'ai pas besoin d'essayer de réfléchir, de dire oui, t'as vu, Dieu m'a fait ci et finalement c'est pas pour mon bien. Mipsari, moi je le sens dans ma chair, dans ma peau. Mais la manière comment on explique dans le Zohar, c'est quoi Mipsari Chezeloka? Ça veut dire que quand il y a des concepts spirituels qu'on a du mal à comprendre, pour mieux les comprendre, on va devoir faire appel à des concepts de notre corps. Puisqu'on part d'une base qu'Akadosh Baruch Hu a créé notre corps et notre âme, par la même structure qu'il a créé, d'accord, qu'il a créé les mondes. Donc s'il y a des concepts comme ça, comme la Shrina par exemple, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu me dis faire descendre la Shrina. Nous on croyait que la Shrina elle est toujours là. Donc, puisqu'on n'arrive pas à comprendre, on va essayer de faire appel à une notion du corps, de notre corps. Mipsari, Echezé Eloka, de notre chair, on va essayer de comprendre le divin, de comprendre ce qui se passe. Donc il amène l'exemple suivant. Shekmo. On va essayer de développer ça, d'accord. Je sais pas qui c'est qui a fait des études de médecine ici, Gamil, c'est des études de médecine.
J'ai. Bon.
J'ai fait des études de médecine. Tu. Alors, tu me dis, je sais pas
ce qu'on. Pas des tonnes, hein,
d'accord. Alors, tu me diras ce qu'on en pense en neurologie de tout ce qu'on va dire. Tu me diras ce qu'on en pense en neurologie de tout ce que...
J'ai pas fait la neurologie. Hein.
Ah, t'as pas fait la neurologie.
Même ceux qui font médecine, ils font pas de la neurologie.
Alors, qui c'est qui fait la neurologie,
c'est les neurologues.
Les neurologues.
C'est pas lié à la médecine?
Si,
mais c'est spécialiste. Ah, c'est spécialiste. Ah, bon. Ah, alors, il n'y a pas de neurologue ici?
C'est-à-dire que même un médecin, il n'y aura pas de...
C'est ça?
Il y a quelques connaissances.
Bon, j'ai essayé de voir un petit peu sur Internet, alors, mais je suis pas neurologue, donc je sais pas ce que ça vaut, le côté neurologue que je veux dire. Mais bon, le côté tanien, en tout cas, je pense pouvoir l'expliquer.
Obligé.
Qu'est-ce qui se passe?
D'accord. On est intéressé par...
Donc il dit...
Ah,
donc, Tchikmo, c'est Nishmat Adam. Im et Mal'a, Kol, Rema, Revare, Agouf, Merosho, Vadraglo. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit que si on a du mal à comprendre un concept divin, on va faire appel à notre corps. Notre corps ou notre âme, ça veut dire on va faire appel à un concept qui se passe chez nous. Et grâce à ça, ben, par ricochet, on va comprendre comment c'est chaque Kadosh Baruch Hu par rapport à la Shrina.
Donc on essaie de redimensionner notre taille pour en, ouais, fait en comprendre.
Exactement, parce que c'est le même concept. D'accord. On l'a déjà fait plusieurs fois ce procédé, par exemple quand on voulait comprendre le chesed, la différence entre la bonté d'Akadosh Baruch Hu, la rigueur, etc. On a fait appel à des notions que l'homme connaît, qu'on connaît chez nous, pour mieux comprendre comment ça se situe chez Akadosh Baruch Hu. On l'a fait très souvent dans Tania, et c'est normal, parce que Mipsari et Chesed-Loka, Akadosh Baruch Hu aurait pu créer le monde autrement. Il aurait pu créer le monde d'une manière que le monde n'a rien à voir avec la manière comment il est. On aurait pu le faire. Mais pour simplifier les choses, il a fait qu'il nous a créés à son image. Betselem Elohim, c'est-à-dire qu'il nous a créé à son image, ça veut dire que c'est la même structure. Après, c'est pas la même chose, mais c'est la même structure. Bon, donc on va parler maintenant de la structure de l'homme. Donc rappelez-vous, le problème qu'on a, c'est on essaye de comprendre comment la Shrina, qui est normalement un élément qui est omniprésent, la présence de Dieu qui est un élément omniprésent, comment on peut dire qu'il y a des différences apparemment de présence, que dans un endroit il est plus présent que d'autres. On n'arrive pas à comprendre ça. Pour nous, Dieu est présent partout. Dieu n'est pas lié à un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va donner un exemple de chez l'homme.
Concentration.
Hmm?
Un niveau de concentration.
C'est pas si simple. On va parler.
C'est ce que disait Bergson. Ça, c'est Bergson. Il disait que...
C'était un neurologue.
Bergson, non, c'est un philosophe. D'accord. Et que le tout est dans les parties.
C'est-à-dire quoi, le tout est dans les parties?
Oui. C'est-à-dire qu'on est dans un système où chaque partie est constituée sur le même modèle que le tout, que l'ensemble.
Très bien. Non,
c'est Bergson.
Moi, ma question se pose. Si je pose la question maintenant, quelle différence il y a entre la Shrina qui se trouve à l'intérieur ici et la Shrina qui se trouve sur le trottoir? Est-ce que tu es capable de m'expliquer? Encore une fois.
À froid. S'il fait chaud dehors, il fait froid. C'est pas mal.
Bon, alors on aurait pu expliquer, comme ça dit M. Bellassène, que c'est une question de concentration. Que ici, la lumière, elle brille très fort, et dehors, la lumière, elle brille pas fort. On aurait pu expliquer comme ça. Mais on ne pourra pas expliquer comme ça.
Non, c'est pas comme ça. C'est ça.
On va expliquer pourquoi. Attention, c'est pas juste pas comme ça, il faut expliquer. Attends. Donc, qui dit? Chikmo, chez Nishmata Adam, im et mal'a, kol remach et varia gouf. On va parler de l'âme. L'âme, notre neshama. Im et mal'a et kol remach et varia gouf, merosho va être aglo. On sait très bien que notre âme, elle va emplir tous les 248 membres du corps, merosho va être aglo, de la tête jusqu'au pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un membre qui n'a pas de vitalité meurt. On est d'accord? C'est-à-dire un membre, dès qu'il n'a plus de vitalité, il meurt. Mais c'est quoi cette vitalité? Ça vient de la neshama. Donc la neshama, elle se trouve ni dans la tête, ni dans le cœur, elle doit se trouver partout. Et dès qu'un membre du corps, une partie du corps n'est plus alimentée par la neshama, parce qu'on va appeler maintenant la neshama, il meurt. C'est ce qui va faire la différence entre une personne vivante et une personne morte. Bien que le membre reste là le même, ce qui va changer, c'est la neshama. Très bien. Donc normalement, la neshama se trouve dans tout le corps. Est-ce que je peux dire que la neshama se trouve dans la tête, ou dans le cœur, ou dans les mains, ou dans les pieds? A priori, non. La neshama se trouve de la même manière dans tout le corps. En tout cas, elle se trouve dans tout le corps. Très bien.
Peut-être.
Ve'afal piken, quand même. C'est-à-dire, au résultat final. Le résultat final, c'est que l'énergie...
On peut dire qu'elle est... On peut imaginer. Elle est dans le cœur.
Oui. Et après, il redistribue.
Et le cœur, il
redistribue
dans tout le corps la vitalité.
Très bien. Très bien.
Comme elle est dans le cerveau.
Donc, il redistribue.
Comme, voilà.
Très bien.
Donc, c'est pas qu'elle est...
Neurotransmetteur.
Voilà.
Il redistribue. Sauf qu'il y a deux choses.
Elle dispatche.
Il y a deux choses. Il y a premièrement, il y a le fait qu'un membre en soi, il doit communiquer avec le cerveau et avec le cœur. Chaque membre doit communiquer avec le cerveau et avec le cœur. Ça, c'est une première chose. Mais à part ça, il faut que le membre en soi, il marche. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne que c'est irrigué, qu'on va vérifier, c'est irrigué, le sang arrive, et pourtant, la main, elle ne marche pas, il est paralysé. Pourquoi il est paralysé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est qu'il est paralysé? Voilà, c'est un problème neurologique. Ça veut dire que des fois, le membre est là, il est vivant a priori, mais pourtant ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Donc ça veut dire que c'est lié, on va appeler ça maintenant la Neshama, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la Neshama, mais ça veut dire qu'il y a une vitalité, il y a forcément une vitalité. Et cette vitalité ne se trouve pas dans un endroit particulier. Au bout du compte, cette vitalité, en tout cas dans le produit fini, cette vitalité se trouve partout. Et s'il y a une partie du corps qui n'est pas irriguée par cette vitalité, elle ne vit pas. Sauf que... Va faire piquer, elle est quand même.
Je permets, je m'excuse.
Ah oui.
Si on veut imaginer ce que tu dis, on va dire que cette vitalité, elle peut apparaître
oui.
sans être permanente. Si on fait l'analogie à un muscle, en réalité, il peut être au repos pendant des heures, le muscle.
Mais
comme
le...
un muscle
même
mort.
Même s'il est au repos.
Non, comme un muscle mort.
Je ne parle pas, pas d'activité.
Non, mais non, même, non, il est au repos. Il a absolument aucun influx nerveux qui circule.
Le fait même qu'il ne
s'est pas décomposé.
Attendez, le fait même qu'il ne s'est pas décomposé.
C'est parce que ça circule le sang.
Très bien.
Mais c'est encore différent du fait que c'est en action.
Donc, c'est ce qu'on appelle un neshama, ce qu'on appelle une vie.
Bon,
d'accord. Je ne rentre pas dans le même divin.
Il y a le fait que ça soit vivant, il y a du fait qu'il soit actif.
J'ai bien dit depuis le début ça. C'est moi qui voulais. Bon, on va développer. Donc il dit comme ça. Il dit Vafal Piken, quand même. Bien qu'on voit bien ici que qu'est-ce qu'il a expliqué ? Il a expliqué que la neshama, la vitalité, doit se trouver dans tout le corps. S'il y a un membre du corps qui n'est pas irrigué par cette, enfin, auquel cette vitalité n'est pas distribuée, il arrête de vivre. Et pourtant, Ikar Mishkana Veashrata Ibemocho. Et pourtant, on va expliquer pourquoi. D'accord, on va laisser le temps d'expliquer. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ? Le principal, l'endroit principal où va se trouver cette énergie, Ibe Moho, c'est dans le cerveau.
Système nerveux central.
D'accord ? Je ne suis même pas encore arrivé au cœur, c'est le cerveau. Ume Amoach, Umit Pachetet, Lechol Aevarim. Et c'est du cerveau que tout va être redistribué aux autres membres. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'au bout du compte, quand tu regardes l'homme, même le petit ongle de ton doigt de pied, s'il vit, c'est qu'il y a une partie de la Neshama qui est arrivée là-bas, sinon il arrête de vivre. La question que je me pose, c'est, avant d'arriver au doigt de pied, par où il est passé ? D'accord ? Il y a eu un pôle ici. Il était où ce pôle ? Ce pôle, il est dans le moir, dans le cerveau. C'est le cerveau qui envoie, c'est le cerveau qui distribue. Là, vous voyez qu'on ne parle pas du sang. Vechol Ever, Mekabel, on va dire quelques lignes, après on va expliquer. Vechol Ever, Mekabel Mimena, Chayut Vekoach, à Raoulo, chaque membre va recevoir, donc de la Neshama, mais en passant par le cerveau, va recevoir l'énergie qui est taillée à sa taille, les fi misgo ou trunato, selon sa nature. C'est-à-dire la chose suivante. Vous prenez une carafe d'eau. Et vous allez verser, vous allez avoir devant vous un verre bleu et un verre rouge. Et vous allez verser de l'eau dans le verre bleu et dans le verre rouge. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? L'eau va prendre la couleur bleue, l'eau va prendre la couleur rouge. Mais en vérité, l'eau n'a pas changé. C'est-à-dire que l'eau, c'est toujours un de l'eau qui est neutre, et l'eau n'a jamais changé, l'eau ne changera jamais. C'est seulement le conditionnement dans lequel on a mis l'eau qui a fait une certaine chose. Ce qu'on va expliquer, c'est que par rapport à la Neshama, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand, par exemple, une personne voit, ce n'est pas qu'il y a de l'énergie en vrac qui est distribuée, et bon, dès que l'énergie arrive dans les yeux, alors je me mets à voir. Non. Ce qu'on va expliquer, c'est que déjà depuis la Neshama, à la source déjà, il y avait une énergie qui était déjà prévue pour les caractéristiques de l'œil, pour la vue. Elle était prévue pour ça. C'est-à-dire, c'est pas de l'énergie en vrac et que dès qu'elle n'est pas distribuée ici, elle ira ailleurs. C'est de l'énergie qui est déjà, c'est déjà prévu comment elle va distribuer. Donc je reprends mon exemple du verre. C'est pas que c'est de l'eau qui restera toujours la même, mais sauf que bon, tu le mets dans un verre bleu, bah, ça devient bleu, tu le mets dans un verre rouge, ça devient rouge. Non, c'est pas ça. C'est de l'eau qui, à la base, a déjà les caractéristiques pour devenir bleue. C'est-à-dire que même si, à la base, tu prends ta carafe d'eau, je ne sais pas si on peut comprendre ça, mais même si tu prends ta carafe d'eau, même si, à la base, tu vois une seule carafe d'eau, une seule couleur, mais dans chaque partie, c'était déjà prévu que ce morceau-là, il deviendra bleu, ce morceau-là, il deviendra rouge. On ne le voit pas encore, mais c'est là. Ça se trouve à l'intérieur. Il va expliquer pourquoi. Donc Vechol Ever, Mekabel Mimenach Chayut Vekoachlo, Araoui, Araouilo, les filles Misgo et Trunato. Comme ce qu'on a expliqué, ça veut dire que chaque membre va recevoir l'énergie qui lui est dédiée. Chaque membre a une partie de la Neshama, donc il a une énergie qui lui est dédiée. Et c'est pour ça, c'est les tzadikines, des fois tu vas voir un tzadik, tu vas dire voilà j'ai un problème dans le pied, dans la main, etc. Il va se dire ah, ça c'est tel mitzvah, ça c'est tel mitzvah. Parce que le tzadik, il sait comment ça se passe. Il sait comment ça se passe dans la Neshama. Il sait que dans la Neshama, il y a une énergie qui est dédiée pour un membre. Et si cette énergie-là, on n'arrive pas à la prendre, aucun autre membre ne peut donner cette énergie. Je parle de la Neshama.
Par exemple, les exemples, Aïn, l'Irotz, l'œil pour voir, Aozen, l'Ishmoa, les oreilles pour entendre, VAP, les Daber, la bouche pour parler, Veharaglaim, l'Ahalor, et les pieds pour marcher. Donc là, on parle des trois, donc là, il a cité quatre choses, mais on parle des trois vecteurs qui sont Marshava, Dibur, Maasé. La pensée, la parole, l'action. La pensée, on l'exprime ici par la vue et lui, d'accord, qui sont les vecteurs de la pensée. La parole, ben c'est la bouche, bien sûr. Et l'action, bien que l'action, dans l'action, il y a les mains aussi. Ouais, mais ce qui exprime le plus l'action. Les mains, oui, exemple. Parce que ce qui exprime le Rabbi qui explique, il dit que ce qui exprime le plus l'action, c'est les pieds. D'accord ? Mais c'est vrai qu'on aurait pu donner les mains aussi. Parce que c'est bien avis. Marchava, Dibour, Maasé. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, footballeur, c'est bien ça. Hein.
Footballeur, c'est dans la tête, dans les pieds.
C'est ça le problème.
Ils ont de l'or dans les pieds. Alors.
En tout cas, ça leur apporte de l'or.
Kanir et Bechouch, comme on voit clairement, on va essayer d'expliquer ce qu'il veut dire. Shebe Moach, Margish, Kol Anifal, Beramach Varim, Vechol Akorot Otam. Comme ce qu'on voit clairement, on voit clairement que le cerveau et le centre nerveux, et c'est lui qui va tout gérer, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui va envoyer des signaux. Et c'est le cerveau qui va être capable de gérer est-ce que le signal est revenu ou le signal n'est pas revenu. C'est-à-dire, par exemple, quand une personne il n'arrive pas à bouger sa main, sans voir sa main, il peut savoir que sa main est paralysée. Comment il sait ? D'où il sait ? D'où il sait que sa main est paralysée ?
Il la sent plus.
Parce que, mais c'est après, mais il ne la regarde pas, il ne la voit pas. Comment il sait ?
Il la sent plus.
Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le cerveau, d'accord ? On peut expliquer le système nerveux, enfin on peut appeler ça comme vous voulez. Il envoie un signal, il y a une énergie qui vient dans le cerveau la redistribue, donc il envoie un signal. Et le signal de retourner, de réfléchir. Et quand il ne revient pas, c'est qu'il y a un problème. Donc là, le cerveau, il sait, là-bas, c'est paralysé. Donc, ce qui veut dire que c'est très important ce qu'il est en train d'expliquer ici. Pourquoi il explique ça ici ? Ce qui veut dire que si c'était, je reprends mon exemple de la carafe d'eau, d'accord ? Si c'était comme dans l'exemple de la carafe d'eau, que l'eau est la même, et que, bon, tu verses en vrac, la carafe d'eau ne sait pas quelle eau, quel verre est... Alors bon, on va dire, par exemple, j'ai deux verres devant moi, le verre bleu, le verre rouge, d'accord ? Il y en a un qui était déjà plein. Et la carafe 2, elle verse sans voir. Est-ce que la carafe 2 peut savoir lequel était plein, lequel était vide ? Elle ne peut pas savoir. Pourquoi elle ne peut pas savoir ? Parce qu'elle n'entend, elle n'attend aucun signal en retour. Et elle, juste, elle verse de l'eau. Après, c'est le conditionnement qui va faire que ça, c'est bleu, ça, c'est rouge. Si on avait expliqué de la même manière dans la Neshama, que juste, c'est de l'énergie en vrac, et après, ça se redistribue, ben, sauf qui peut. Dans ce cas-là, le cerveau n'aurait pas été capable de gérer ça. Le cerveau n'aurait pas été capable de savoir de soi-même qui c'est qui marche, qui c'est qui ne marche pas. Or, ce n'est pas le cas. Le système nerveux, en homme, en soi, il sait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il le sent. Donc, ça veut dire quoi ? En tout cas, tel que c'est expliqué dans la Kabbalah, je ne sais pas comment ça marche en neurologie, hein, je vous dis tout de suite. J'ai essayé de voir, je pense que c'est à peu près ça, mais peut-être je me plante en neurologie. C'est ça ? Bon. Vous êtes neurologue ?
Non.
Je sais pas combien c'est payé.
Ça paraît logique.
Non, logique, c'est logique, mais je sais pas si en médecine explique comme ça, j'en dis. Gamiel, il va nous aider un peu peut-être.
Non,
il a l'air plus bâti que moi.
Ouais, surtout, ils nous expliqueront comment on fait qu'on perd des neurones après.
Non,
c'est un truc que je peux pas gagner.
La dégénérescence.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, si on dit que l'énergie n'était pas dédiée dès le départ, que c'est de l'énergie en vrac qu'on envoie, si on dit qu'elle n'est pas dédiée dès le départ et que dans le cerveau, il sait, ça je l'envoie à un tel, ça je l'envoie à un tel, ça je l'envoie à un tel, dans ce cas-là, il n'est pas capable de savoir qui est revenu, qui n'est pas revenu. Lui, il a mis de l'eau en vrac. D'où tu veux qu'il sache quel verre était plein, quel verre était vide et quel verre s'est renversé. Il n'en sait rien. C'est pas ses affaires. Lui, il envoie de l'eau, ça reste la même eau. Tu reverses le verre, ça sera la même eau. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire ici ? On est en train de te dire que dans le cerveau, c'est pas comme ça. Le cerveau, quand il envoie de l'énergie, c'est l'énergie qui est dédiée. C'est-à-dire que même si, quand l'énergie est en vrac, si on peut dire comme ça, en brut, on ne voit pas, en neurologie, je ne sais pas, hein, même si quand l'énergie est en vrac, on n'est pas capable de voir...
Le GPS, la
triangulation. Non, parce que je pense que ce qui fait la stabilité de l'information, c'est son insertion neuronale. Ce n'est pas le type d'énergie, c'est tout le même type d'énergie. C'est soit chimique, soit électrique, ça dépend par quoi ça passe, mais c'est toujours le même type. Simplement, l'innervation, elle n'est pas la même, et donc le cerveau, il envoie à droite ou à gauche, et il sait qu'il envoie au pied gauche, au pied droit, à l'orteil, chacun. Tout est totalement ramifié, c'est la folie. 40 sous, c'est
qu'est-ce qui fait qu'une personne
qu'est-ce qui fait qu'une personne
par exemple des fois ne peut plus entendre.
Il peut y avoir des millions de raisons. D'accord. Mais on va dire la raison la plus
donc
la
il peut avoir plusieurs raisons.
Soit ça vibre pas.
Il peut avoir soit le membre qui est mort.
Voilà, donc ça vibre pas, on va dire.
Donc il n'y a pas de récepteur.
Ah non, disons qu'il n'est pas capable. Oui, bon, d'accord.
Donc il n'y a pas de récepteur.
Il n'y a pas le capteur. Il n'y a pas de capteur.
Non, le récepteur. Ça veut dire qu'il n'est pas là, il ne peut pas recevoir. D'accord.
Soit
c'est neurologique, c'est un problème. Alors, ce qui veut expliquer ici, c'est que nous, c'est vrai que c'est pour ça que je dis, je ne sais pas comment on explique en neurologie. C'est pour ça que je vous ai posé la question depuis le début. C'est que. A priori, on est tenté à penser que c'est de l'énergie. C'est comme une voiture. Alors, quand je déplace une voiture, j'ai déplacé beaucoup de choses. Mais je ne peux pas dire que le moteur qui a fait tourner la voiture, il a dit « Ah, je vais déplacer ça et ça et ça ». Il ne réfléchit pas. Lui, il bouge et c'est tout. Et celui qui bouge avec moi, il bouge avec moi. Donc on aurait pu penser que le corps humain, c'est la même chose. Qu'on envoie de l'énergie vers les yeux, on envoie de l'énergie vers les oreilles, on envoie de l'énergie. Et celui qui peut recevoir, il reçoit. Ce qu'on explique, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, spirituellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Spirituellement, il y a une énergie qui est dédiée, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est dédiée pour l'œil, pour la vue, une énergie qui est dédiée pour lui, une énergie qui est dirigée pour le toucher. Et même si, quand l'énergie se trouve dans le cerveau, c'est pas encore séparé en 248 membres, on le voit pas. Mais à la base, d'accord, à la base, en vérité, en mode caché, se trouvent déjà toutes ces caractéristiques.
C'est un bout de neshama, ça veut dire ?
C'est l'énergie, on va appeler ça l'énergie. Je ne rentre pas dans la neshama. Ah, pourquoi il veut expliquer ça à Morazaken ? Rappelez-vous, il ne faut pas perdre de vue. Qu'est-ce qu'il veut expliquer ici ?
On cherche la neshama, la shrina qui est...
Nous, on recherche, répartition, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la différence entre devant la porte et derrière la porte. Ah, ici, on est dans la synagogue, tu sors de la synagogue. Quelle différence ? Mais ici, il y a la shrina. Mais pourquoi ? C'est quoi la différence ? Ça veut dire, à la limite, que tu me dises que moi, je dois adapter mon comportement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Tu me dis que moi, je dois adapter mon comportement selon certains endroits. Ça ne me dérange pas. Bon, il faut bien adapter son comportement. Ça ne me dérange pas. Ce qui dérange ici, c'est qu'apparemment, ce Yinuka, il nous a dit que la Shrina se trouve dans plus d'endroits que d'autres. Donc c'est le fameux concept du Kodesh HaKodeshim, du Saint des Saints. C'est-à-dire que c'est pas simplement que le Kohen Gadol va changer d'attitude quand il rentre dans le Kodesh HaKodeshim. Le Kodesh HaKodeshim, c'est une autre Kdusha. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une autre Kdusha ? Donc on amène l'exemple de la Neshama. Si on prend l'exemple de la Neshama, bien qu'à la base, l'énergie qui va faire vivre tous les membres, l'énergie qui va animer tous les membres, cette énergie-là, a priori, c'est une seule énergie. Il n'y a pas 248 énergies. C'est une seule énergie. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on explique dans le Zohar ? On explique que bien que c'est une seule énergie, mais cette énergie-là, dès le départ, sans qu'on le voit, elle est déjà séparée en compartiments. C'est-à-dire que c'est une seule carafe d'eau, c'est un seul compartiment, mais à la base, dans ce compartiment-là, on sait déjà, on peut savoir qu'il y a ça qui pourrait être dédié pour la vue, ça qui pourrait être dédié pour lui, et après, le cerveau, il s'est déjà redistribué tout ça. C'est-à-dire, c'est très spécial ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire, d'un côté, c'est une seule énergie, mais d'un autre côté, quand on voit le résultat final, on voit que cette énergie-là, en vérité, dès le début, elle était déjà fractionnée, elle était déjà cloisonnée, bien qu'on ne le voit pas. Donc, avec ça, on va essayer de développer un peu, je pense que vous voyez, on va en arriver, on va essayer de développer un peu la Shrina. D'accord ? De la même manière, même si Akadosh Baruch Hu se trouve partout, mais il va y avoir des différents endroits. Il y aura le cerveau, il y aura les orteils, il y aura beaucoup de membres. Donc on va rentrer dans les mots. Morazaken explique très longuement ça. Donc Kanir et Bechouch, on reprend à Kanir et Bechouch. Quelle heure il est ? Parce que j'ai pas de monde là.
Il est 9h20.
Très bien. C'est quelle ligne Kanir et Bechouch ?
1, 2, 3, 4, 5 en partant du bas.
5 en partant du bas.
5, je crois. Deux mois avant la fin.
6. Ouais.
Deux mois avant la fin.
Ouais. Il dit comme ça. Il dit Kanir Ebechush, Shebemoar, Margish, Kolanifal, Beramach et Varim, Vecholakorot, Otam. Que on voit clairement que tout ce qui se passe dans les membres, le cerveau est au courant. Pourquoi il est au courant ?
Il est branché.
Il est au courant parce qu'il est branché. C'est-à-dire quoi, il est branché, c'est-à-dire c'est lui qui envoie l'énergie, et c'est lui qui sait que j'ai envoyé une énergie dédiée pour la vue, donc si cette énergie-là me revient, ça veut dire que je ne vois pas. J'ai envoyé une énergie dédiée pour lui, si j'entends pas, c'est que si cette énergie m'est revenue, c'est que j'entends pas. Alors nous, on ne le sent pas tout ça, mais le cerveau le ressent. Ça veut dire quoi ? Maintenant, on va analyser ce qui passe dans le cerveau. En chinouy, kabbalat akochot ve'achayut shebara ve'aguf, menene shama Mitzad Atzma ou Mahouta. Maintenant, on ne peut pas dire que dans la Neshama, d'accord, il y a déjà ce cloisonnement. Il y a déjà ce fractionnement, que déjà on a déjà 248 membres, on a déjà 248 cloisons. On ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça, hein? Parce que si on va dire ça, Iye, chez Iye, Mahouta ve'atzmuta mitralek le ramach halakim shonim. Donc si on dirait que l'essence de la Neshama, c'est un peu compliqué, hein, que l'essence de la Neshama va se séparer en 248 parties, amitlapshim beramach mekomot kefitzi ochel mekomot evaragouf. Si on va dire que dès le départ, la Neshama, Dieu ne nous a pas livré un morceau, il nous a livré un moteur de 248 morceaux. On peut penser comme ça. Que Dieu, dès le départ, il ne nous a pas livré un moteur avec un morceau. Il nous a livré un moteur avec 248 morceaux. Et après, on redistribue. On aurait pu penser comme ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça, hein? Chez les fisés, Nimtsa, Atzmuta ou Mahouta, Metsuyar, Betsuyur, Gashmi. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Pourquoi on ne peut pas dire que dès le départ, la Neshama est cloisonnée? Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que la Neshama a déjà une forme matérielle, que déjà on va être capable de dire ça c'est la vue, ça c'est lui. Or, ce n'est pas le cas. Ketavnit Agouf, Ras Leshalom. Et là, Kula Etsem Echad Rouhani Pashut ou Mufshat Mikol Tsiur Gashmi. On sait clairement que ce n'est pas le cas, on sait clairement que la Neshama n'a pas de forme. La Neshama n'a pas de structure, d'accord? La Neshama, c'est une seule entité, si on peut appeler ça une entité. C'est une seule chose. Je vais essayer de donner un exemple pour expliquer ce que ça veut dire. Rassilut, on a un exemple, on dit c'est comme la volonté. Quand quelqu'un dit je veux quelque chose. Quand quelqu'un dit je veux quelque chose. Que ça veut dire quoi il veut quelque chose? C'est qui veut? C'est son cerveau, c'est son cœur, c'est sa main, c'est ses pieds. Qui c'est qui veut?
C'est
un échama. Oublie un échama.
Hein? C'est lui.
Hein? C'est lui, c'est quoi lui?
Sa volonté.
C'est une question que tu as posée il y a 2 ans, Guy.
Il y a 2 ans.
Ça ne veut rien.
Non, il a oublié la question, surtout.
Tu te rappelles, tu as posé la question, tu as dit, c'est quoi le moi? Tu dis quelque chose?
Il y a 2 ans.
Non, c'était...
Deux ans et demi.
Deux ans et demi.
Comment on ne peut pas vérifier?
Depuis, il y a de l'eau qui a coulé dans le Danube.
Sous les ponts. Mais tout à l'heure, il a dit, 2 ans et demi, j'ai vérifié, c'est ça.
C'est son effèche.
C'est quoi alors non,
volonté,
physiquement, c'est quoi
sa volonté.
C'est quoi, ouais, non, je te demande, c'est quoi la volonté? Il me dit c'est sa volonté.
Il roule.
On dit Endavar Omed.
C'est quoi la volonté? Tu comprends, quand tu dis le toucher par exemple, je peux te dire je touche avec mes mains. Je peux te dire je réfléchis encore à la limite avec mon cerveau. À la limite, parce que des fois on peut dire que je sens que des fois, quand je réfléchis, j'ai mal à la tête. Bon, disons, on va dire que ça se passe ici. Je respire avec mon cœur, je le sens. Mais quand je veux avec quoi?
Le cœur, non?
Je veux avec tout mon corps. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'une personne veut quelque chose,
c'est, pas que le
c'est tous les membres, c'est tous les membres de son corps. Ça peut pas être, on peut pas définir ça dans un endroit. C'est ni la tête, ni les pieds, ni
non,
le cœur. Il y a deux choses, d'accord? C'est ce qu'on appelle Ratson et Oneg. Ça, c'est dans les écrits de Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero explique, il dit qu'il y a deux choses dans le corps d'un homme qui ne sont pas définies dans un membre particulier. C'est Ratson et Oneg. La volonté, tout ce qui est la volonté, je veux, je ne veux pas, c'est pas lié à un membre particulier, c'est l'homme qui veut. La preuve, c'est qu'il va mettre à profit, c'est tous les membres de son corps qui veulent. D'accord? Quand une personne veut quelque chose, s'il faudra respirer pour ça, il respirera, s'il faudra réfléchir pour ça, il réfléchira, s'il faudra marcher pour ça, il marchera, c'est-à-dire que c'est tout son corps qui veut. Et deuxième chose qu'il dit, c'est Oneg. Oneg, c'est le plaisir. Le plaisir, ça veut dire enfin ce qui nous fait plaisir et ce qui ne nous fait pas plaisir. Quand une personne dit j'ai du plaisir, qui a du plaisir? Alors, des fois, il y a des gens qui sont tentés à dire que quand on a du plaisir, c'est le cœur qui a du plaisir. C'est faux, c'est pas forcément le cœur qui a du plaisir. Quand on a du plaisir, on sent que quand on a vraiment du plaisir, c'est le corps entier qui éprouve du plaisir. Mais c'est qui le corps entier? Encore une fois, c'est tout le corps. Ça s'appelle makif. C'est quand ça entoure tout le corps. Après, on parle de ça. Hein. De la même manière, la neshama. D'accord? Il est dans un site de neurologie.
Non. Ah.
Je m'attendais à voir un schéma, là. Je voulais voir un schéma.
Pas encore.
Il n'y a pas une application iPhone pour...
Il y a tout sur iPhone.
À peu près tout.
Quoi?
À peu près tout.
On va chercher sur Instalou.
Non, c'est vrai, Human Body, tu vas trouver.
Human Body, il y a une... Bon, on verra alors. J'essaie de voir un peu sur Wikipédia, la vérité, j'ai pas tout compris. J'ai compris un petit peu quand même. Non, il y a des termes, parce que je comprends pas. Quoi. C'est pas... Il y a des choses que je peux pas comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, de la même manière que la volonté, c'est pas défini dans un moment particulier. C'est général. D'accord?
Diffus.
c'est, comment tu dis ça ?
Diffus. C'est partout.
C'est partout. C'est partout et nulle part. C'est ça, c'est partout et nulle part. La volonté. Pareil, le plaisir. C'est partout et nulle part. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'une personne a du plaisir, il peut se mettre à danser. Quel rapport avec la danse ? Pourquoi tu te mets à danser ? Quel rapport avec tes pieds maintenant ? Parce qu'on dit que lorsqu'une personne est joyeuse, c'est tout son corps qui change. Et s'il est vraiment joyeux, on dit même que ses os, ils s'élargissent. Parce que c'est le corps entier qui change. C'est quelque chose qui entoure le corps entier.
La joie, le plaisir, c'est pareil.
Le plaisir, surtout ce qui est lié à ce qui fait plaisir ou ce qui ne fait pas plaisir. Au bien-être. D'accord ? La volonté et le bien-être. Pourquoi je parle de ça ? C'est la même chose pour la neshama. D'un côté, on est en train d'expliquer que la neshama, tu me dis que la neshama, dès le départ, elle envoie une certaine énergie dans le cerveau. Et que le cerveau, comment il sait ce qui se passe ? Parce que le cerveau va envoyer une énergie dédiée à chacun des membres. Très bien. Mais ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est que ça ne veut pas dire que à la neshama, que dans la neshama à la base, on a un cloisonnement et qu'on a c'est un morceau de 248. Parce que la neshama n'est pas matérielle. La neshama est spirituelle. Donc il n'y a pas ce cloisonnement. La neshama, c'est une seule entité. Alors, comment ça peut être une seule entité et que cette seule entité va donner naissance plus tard à 248 énergies dédiées ? Il y a un problème. Donc de là, on comprend qu'il y a des étapes. Je ne sais pas si on aura le temps de finir ce sujet aujourd'hui. En tout cas, on va appeler ça la théorie des étapes. C'est qu'il y a des fois des choses qui ne sont pas visibles tout de suite. D'accord ? C'est des choses qui se trouvent déjà ici. J'ai une seule entité qui s'appelle la neshama. Dans cette entité se trouvent toutes les caractéristiques des 248 qui suivront, mais ça ne se voit pas encore. Dans la première étape, c'est une seule entité. Après, quand on va avancer plus loin, deuxième étape, c'est quoi la deuxième étape ? Deuxième étape, c'est quand cette énergie va être donnée au cerveau. D'accord ? Qui, lui, le cerveau, va être capable de décomposer cette énergie-là, et d'être capable de redistribuer à chacun des membres. Alors, je sais que c'est un peu cabalistique, mais peut-être ça va aider...
Non, ça ressemble à la comment ça s'appelle à la gestation d'un fœtus.
Non, mais ça correspond à la création du monde, vous avez vu.
La différenciation cellulaire depuis le zygote jusqu'à un bébé. Et donc c'est une différenciation cellulaire.
Une cellule.
Une cellule.
Mais il y a tout
égal. Tout est là. Et après,
et petit à petit, la différenciation.
Sauf que dans cette différence-là, il n'y a pas de pôle.
Avec quoi ?
Il n'y a pas de pôle.
Comment ça, il n'y a pas de pôle ?
Parce que là, moi, dans mon exemple...
Le pôle, c'est la fécondation.
Oui, deux secondes. Moi, dans mon exemple, il faut trois étapes. Trois étapes. Première étape, c'est l'énergie telle qu'elle est à sa source. Si tu veux, imagine-toi, voilà, l'énergie telle qu'elle est dans la centrale. Cette énergie-là, elle va faire tourner des usines, elle va faire tourner des tas de choses, mais quand elle est à la centrale, c'est un bloc d'énergie. Maintenant, ce qu'on t'explique, c'est que cette énergie, quand elle est à la centrale, dans la neshama, elle sait déjà que moi je suis fait pour cette usine, moi je suis fait pour cette usine. Ça, je ne sais pas si le cerveau humain peut comprendre. D'accord ?
Ça marche. Mais c'est comme ça que ça marche dans la différenciation cellulaire. Hein.
Dans la... Très bien. Donc, première étape, d'accord ? L'énergie est en bloc, et pas seulement est en bloc, elle n'est même pas différenciée, elle n'est pas du tout séparée. Deuxième étape, c'est quand ça arrive au cerveau, le cerveau est déjà capable de dire « Ah, ça j'envoie aux yeux, ça j'envoie à l'oreille, ça j'envoie aux pieds, ça j'envoie à un tel, ça j'envoie à un tel. » 248 membres. Troisième étape, c'est l'énergie une fois qu'elle a déjà été distribuée. Une fois que l'énergie arrive dans la main. Ça, c'est la troisième étape. Très bien. Donc là maintenant, avec une fois qu'on a compris ça, on va essayer d'expliquer un peu mieux qu'est-ce qui se passe par rapport à la shrina. Dans les mots. Et là seulement, Kula, normalement on a tourné la page. Ouais, voilà. Et là seulement, Kula et Tsemechad, donc la Neshama, à la base, dans la première étape, c'est une seule entité, Rouhani Pashut. C'est une seule entité, donc spirituelle. Pashut, quand on dit Pashut, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas composé. Murkav, c'est quelque chose de composé, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments, complexes.
Ou simple.
Élémentaire,
Pashut,
en
juste voilà. Élémentaire.
Élémentaire. Parce que Pashut, ça veut dire aussi simple, mais là, ça veut dire ça. Ça veut dire
élémentaire et pas complexe.
Il y a un seul élément.
Murkav, c'est complexe.
Il n'y a pas de détail dans la neshama. Dans la première étape, on ne voit aucun détail. Bien que c'est cette neshama qui va donner plus tard la source, c'est cette neshama plus tard qui va donner naissance aux différents, donc aux différents membres du corps. Donc il y aura une partie qui sera pour la vue, une partie qui sera pour l'œil, et ce sera dédié. Mais quand c'est à la source, tu ne vois rien de tout ça. Il y a une seule entité qui est élémentaire. Il explique ici. Donc, Mikol Tsiyur Gashmi. Umiprinat, Geder, Makom, Umida, Ugvul, Gashmi. Donc bon, il veut pas qu'on se trompe, il te dit, si tu prends la neshama à la base, c'est une seule entité, d'accord ? C'est une seule essence qui est élémentaire, qui n'a pas du tout aucune forme matérielle, aucune forme géographique, aucune mesure, aucune limite, il n'y a rien. C'est une seule entité. Et pourtant, Mitsad Mauta Vatsunta, Lo Shayach, d'accord, Mauta Vatsunta Lomar, Sheibe Mochin, Shebarosh, Utam Uberaglaim. Il a poussé encore un peu plus loin cette idée-là. Si maintenant on saute l'étape, rappelez-vous, je vous dis, il y a trois étapes. Première étape, c'est l'énergie telle qu'elle est à la base. Deuxième étape, c'est lorsqu'elle est dans le cerveau. Et troisième étape, c'est lorsqu'elle a déjà été distribuée à tous les membres. Alors imaginez-vous qu'on saute la deuxième étape, que je ne regarde pas la deuxième étape. Qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit, si tu regardes à la fin, c'est-à-dire le résultat final, le cerveau, il va dire, moi j'ai plus de neshama que les pieds. On va dire, monsieur, tu te trompes. Puisque c'est la même neshama qui a fait vivre le cerveau, c'est la même neshama qui a fait vivre les pieds. Ça veut dire comme ça, ça veut dire que c'est ce qui est complexe ici. C'est que d'un côté, quand tu vois le résultat final, c'est la même neshama qui fait vivre le tout. Et personne ne peut se targuer de dire, moi j'ai plus de neshama que toi. Moi j'ai plus de quantité. Parce que la neshama à la base n'est pas liée à la quantité, il n'y a pas de quantité. D'accord ? Justement. Ah non. Là j'ai dit, je ne parle pas du deuxième, j'ai dit premier, troisième. Oublions pour un instant la deuxième étape. Deuxième étape, c'est lorsqu'elle est dans le cerveau, la décomposition. D'accord ? Tel que c'est distribué. D'accord ? Si maintenant quelqu'un va dire, moi j'ai plus d'énergie que toi, moi j'ai plus de neshama que toi. Les pieds vont dire, nous on a plus de neshama que la tête. On dit non, il n'y a pas plus, c'est pas plus. Ça ne peut pas être plus. D'accord ? Non, elle n'a pas plus de neshama.
D'énergie ?
Non. Elle peut se targuer d'être le pôle qui va redistribuer. Ça oui. Mais elle ne peut pas dire j'ai plus de neshama qu'un autre parce qu'elle n'a pas plus de neshama. C'est la même neshama pour tout le monde. Et à la base, cette neshama-là n'est pas cloisonnée, n'est pas séparée. Donc la même neshama qui a fait vivre les pieds, c'est la même neshama qui fait vivre le cerveau. C'est exactement la même. C'est ça le paradoxe ici. C'est que d'un côté, à la base, cette neshama n'est pas cloisonnée, donc c'est une seule entité. Mais après, apparemment, dès qu'on arrive au cerveau, apparemment, on découvre un cloisonnement. C'est ça ce qui est spécial. Pourquoi il prend cet exemple-là? Parce que ça va nous aider à comprendre la Shrina. C'est un vrai paradoxe, ça. Tu prends à la base, à la source. C'est-à-dire, imaginez qu'on avait sauté la deuxième étape. Imaginez qu'on serait passé directement de la Neshama, directement à la Neshama, elle envoie tout à chacun des membres. Aucun des membres ne pourrait dire, moi j'ai plus de Neshama que toi. Pourquoi aucun des membres ne pourrait dire ça? Parce que c'est la même Neshama pour tout le monde. C'est la même Neshama. D'accord? C'est comme si vous avez deux usines et qu'une usine va dire, oui, moi j'ai de la meilleure électricité que toi. Il n'y a pas de meilleure électricité, c'est la même électricité pour tout le monde. Et d'un autre côté, pourtant, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu viens de me dire, oui, mais à la base, il y avait même si on ne le voyait pas à la base, mais en vérité, il y a un cloisonnement. Dans les mots. On va lire quelques lignes, vous allez voir qu'après, ça va être plus clair. Velo shayar bemauta veatsmuta lomarche i bemochin shebarosh. Donc je reprends la deuxième ligne. Deuxième ligne, qu'est-ce que quelle ligne on est? Quatrième ligne. Velo shayar bemauta veatsmuta lomarche i bemochin shebarosh yotam ibaraglaim. Si on se focalise sur la première étape, c'est-à-dire l'aneshama, qu'elle est une seule entité, on ne peut pas dire qu'elle se trouve, qu'au résultat final, elle se trouvera dans les pieds plus que dans la tête. Pourquoi? Parce qu'on vient d'expliquer. Ma'achar shema'uta v'atzmuta, eina begeder uprinat makom ukvul gashmi. Puisque l'aneshama, à la base, ne peut pas être cloisonnée, ne peut pas être limitée, ne peut pas être définie. Par définition, c'est spirituel, ça ne peut pas être défini. Rak seulement. Shetariag mine korot v'chayut. Qu'il y a 613. Avant on parlait de 248, maintenant il parle de 613. C'est Tariag Mine Kochot Vechayut, Klulimba, Bemauta, Veatsmuta, la Tset et la Poel, Veagilou, Imaelem, la Chayot, Ramach, Evarim, Shasagidim. Mais sauf que quoi? Même si on ne le voit pas à la base, mais c'est grâce à la deuxième étape, grâce à l'étape du cerveau, c'est cette étape du cerveau qui a été capable de me démontrer que même si à la base, dans la première étape, tu ne le voyais pas, mais en vérité, dans l'Aneshama, il y a une énergie qui est définie pour chacun des membres.
Donc dès le départ, mais tu le vois
donc
pas.
Dès le départ. Ben oui, il est bienvenu de quelque part. Oui. C'est ça ce qui est spécial. C'est que c'est pas le cerveau qui a... C'est pas que le cerveau a reçu l'aneshama et dit, bon, maintenant on a reçu, moi je pense ça, je vais donner à l'œil, ça, je vais donner à un tel. Non. Le cerveau n'a fait que découvrir,
révéler.
D'accord, que révéler apparemment des caractéristiques qui étaient déjà là.
Donc tu veux dire que ce n'est pas une énergie brute. En fait,
non.
Spécifique
dès le départ. Mais c'est ça le problème. C'est que à la base, t'es obligé d'être que on est obligé de dire que c'est une énergie brute.
Mais elle apparaît comme étant
une seconde. Mais à la base, l'énergie de la Neshama, c'est une énergie qui est spirituelle. Donc si c'est spirituel, ça veut dire que c'est pas défini.
Quel est le rôle du cerveau? Il décode.
De révéler.
De décoder. Razak. De décoder.
Décoder quoi?
De prendre de l'aneshama et de décoder, d'être capable de retrouver, de dire voilà, dans l'aneshama, il y avait en vérité une partie qui était pour l'œil, une partie qui était pour ça, une partie qui était pour ça, une partie qui était pour ça.
Lui, il a refait en maths, il a
de canaliser.
Non. De décoder. C'est un très bon décoder. C'est pas seulement canaliser. Parce que, à la base, si tu prends l'aneshama à la base, il n'y a pas tout ce cloisonnement, il n'y a pas tous ces. Tout ces y a, c'est pas découpé en 248, il n'y a pas de découpage.
C'est un peu le...
c'est un vrai paradoxe. Quand on réfléchit, essayez de réfléchir, vous allez voir que c'est un vrai problème.
C'est un peu comme dans
parce que c'est bien venu quelque part ce cloisonnement. Je dis que c'est pas le cerveau. Le cerveau n'a fait que décoder. Alors d'où il est venu?
C'est comme quand on parle de Hatsilut au départ, qui est l'énergie uniquement spirituelle, et tu arrives en bas au monde de l'action, où ça paraît matériel.
Oui.
C'est le même passage.
Oui.
Tu passes par un récipient.
Seconde. Je vais essayer de vous donner un exemple pour expliquer ça. Oui, j'ai compris. Imaginez-vous, je ne sais pas moi, imaginez-vous que le soleil brille. Le soleil est en train de briller très fort. Il y a une seule lumière du soleil. Et que le soleil va briller, et qu'il va briller, il va briller sur un objet qui est rouge et un objet qui est bleu. Donc l'objet qui est rouge va devenir plus rouge, et l'objet qui est bleu va devenir bleu. On est d'accord. Maintenant, imaginez-vous qu'on est en train de te dire que, même si à la base, le soleil, on a l'impression que c'est une seule lumière, mais en vérité, il a dirigé le rayon du bleu, il a dirigé vers le bleu, il n'y a que ce rayon qui pouvait amener le bleu. Et le rayon du rouge, il a dirigé vers le rouge, et il n'y a que ce rayon qui peut amener le rouge. Et bien qu'à la base, quand tu vois le soleil, tu vois une seule lumière.
Mais c'est ce qui se passe, la lumière blanche et la décomposition.
Oui, mais sauf que là, encore une fois, si tu fais la différence entre l'objet rouge et l'objet bleu, le soleil n'y est pour rien, c'est l'objet qui a fait ça, c'est le conditionnement.
Il réfléchit.
Très bien, il réfléchit. Là, ce qu'on te dit, c'est que c'est pas comme ça. C'est pour ça que j'ai expliqué depuis le début du cours. C'est que c'est pas là, c'est pas le conditionnement. Non, c'est pas que.
Comme il dit, le soleil, la lumière blanche que l'on voit, elle est en vérité multicolore.
Multicolore.
Elle est.
Très bien.
Pas, elle ne l'est pas. On la voit pas.
On la voit pas, ok.
Il suffit simplement d'un prisme pour faire apparaître les couleurs.
Sauf que.
Elles existent déjà.
Sauf que le soleil n'a pas dit dès le début, il dit bon, je vais diriger une partie de ma lumière vers ça.
D'accord, il n'y a pas le côté intelligent de la direction. Mais ça existe. C'est-à-dire, on a bien quelque chose qui est blanc,
et
qui pourtant contient toutes les couleurs.
Le cerveau, c'est le prisme. Alors.
Le cerveau, ce serait le prisme. Ouais, c'est pas mal comme idée. En adaptant l'idée de la lumière.
Ouais. Mais bon, c'est pas valable à 100%.
C'est pas valable à
100%. C'est bon, Eric, t'as
vu. Pourquoi ce serait pas valable à 100%,
hein? Non, c'est pas valable à 100% parce que le soleil ne dirige pas sa lumière vers. Ne décide pas vers qui dirige sa lumière. Le soleil, une fois qu'il dirige sa lumière.
On n'a pas besoin de dire qu'il dirige. Le soleil, il contient, on va dire, 5 couleurs ou 6 couleurs de base.
Bien, oui.
Mais qui ne se voit pas, ou 7, qui ne se voit pas.
Oui.
Il ne se voit pas.
Très bien.
C'est blanc. Mais quand ça arrive au cerveau, bah, il te dit, voilà, le bleu que personne voit, moi je l'ai vu. Hop, il va là. Et le rouge, il va là.
Non, sauf que, justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'apparemment, le soleil, dès le départ, il sait que, dans l'exemple de la Neshama, il sait que ce rayon, je vais l'envoyer vers là, et ce rayon, je vais l'envoyer vers ça. Et il peut pas interchanger. S'il interchange, ça marche pas. Bon, on va lire un peu plus dans les mots. C'est un vrai paradoxe, c'est un des concepts les plus compliqués de la Kabbalah. C'est très spécial parce que tu me dis qu'à la base, il n'y a pas de cloisonnement, à la base, c'est une seule énergie, et après tu me dis qu'à un certain moment, il y a un cloisonnement et on se retrouve avec une énergie différente. Je dis, mais attends, tu sais, d'où il est venu ce cloisonnement? Il vient pas du cerveau parce que le cerveau n'a fait que décoder. Donc s'il décode, c'est-à-dire que c'était déjà là. Mais pourtant, on vient de dire qu'à la base, la Neshama, elle est spirituelle et que par définition, le spirituel ne peut pas être divisible, ne peut pas être spécifié, il doit être pashut, il doit être élémentaire. Il n'y a rien de tout ça. Alors comment c'est possible? C'est un problème. Dans les mots. Rak, on va reprendre depuis Rak. Peut-être on va comprendre un peu mieux. La ligne qui commence Rak. Ça va, David?
Oui.
Bon, ce soir, j'ai pas pu amener la bourra et tout ça, mais une petite bourra, ça aurait pas fait de mal. Hein.
Bah écoute, hein. Ouais, ça c'est pour différencier.
Rak seulement. Chez Tariag, Mine Kochot Vechayut, Klulimba, Bemauta, Vatsmuta, Latset El Apoel, Vehagilouy, Mehaelem, La Chayot, Ramach, Evarim, Vishakidim, Shebagouf, Aliede, Itlapshutam, Ben Nefesh Achiyunit. D'accord? Chez Yeshla, Gamken, Remar, Veshassa, Mine, Kochot, Alalou. Remar, Veshassa, Mine, Kochot, Khayadalou. Là, il nous apprend quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? On dit que le cerveau, c'est le siège de la Nefesh Achiyunit. Bon, maintenant, je vais expliquer encore autre chose. Ça, on en a parlé il y a quelques mois, je ne me rappelle plus quel mois c'était. crois que c'était, à mon avis, il y a un an, de ce que je me rappelle, mais je ne suis pas très sûr. On a parlé de la Nefesh HaChiyunit. Nefesh HaChiyunit, c'est l'âme vitale. Jusqu'à présent, on connaissait l'âme animale, celle qui nous poussait à faire des bêtises, l'âme divine, celle qui nous poussait à faire des mitzvot. Maintenant, on va parler de l'âme vitale. C'est quoi l'âme vitale? L'âme vitale, c'est celle qui fait que les choses vivent. Cette âme-là se trouve chez tout élément qui vit. Même chez une plante. Tout ce qui bouge, tout ce qui vit, il y a une âme vitale. Un animal, l'homme, très bien. Maintenant, ce que l'Arabe nous apprend ici, l'âme Razakaen, d'accord, ça c'est une analyse du Zohar, parce que sinon le Zohar, ça serait crypté, ça. Ce qui explique ici l'âme Razakaen, c'est qu'en vérité, cette âme vitale-là, elle a en elle ses 248 parties. Donc c'est déjà cloisonné en elle. C'est-à-dire, dans cette âme vitale, elle s'est déjà dit, moi, je suis là pour faire vivre les yeux, moi, je suis là pour faire vivre un tel, moi, je suis là pour faire vivre un tel. Et ce qu'il a expliqué ici, c'est que quand l'âme divine va envoyer de l'énergie à l'âme vitale, d'accord, moi, j'essaye de grossir un peu la chose, hein, mais quand l'âme divine va envoyer de l'énergie à l'âme vitale, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À la base, c'était un seul élément. Mais quand l'âme divine va rejoindre l'âme vitale, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que l'âme vitale va être capable de décoder, donc c'est ça ce qui va se passer dans le cerveau, la deuxième étape, elle va être capable de décoder la lumière de la Neshama, et d'être capable de dire qu'en vérité, dans la Neshama à la base, il y avait la possibilité de réfléchir, il y avait la possibilité de faire ci, il y avait la possibilité de faire ça. Et ça, je pense que sur ça, c'est un très bon exemple, l'exemple que vous avez donné du foetus. D'accord? C'est quoi l'exemple du foetus? C'est que c'est la même chose. C'est qu'à la base, il y a une seule cellule. À la base, il y a une seule cellule. Le père a donné une seule cellule à la mère. Il a donné une seule chose. D'accord? Et on explique que dans cette goutte que le père a donnée, tout se trouvait.
Moitié.
Comment c'est possible? Pardon?
Moitié.
Oui. Enfin, non, lui, il a donné tout son etsem. Lui, il a donné tout son essence.
Tout ce qui est blanc.
Non. Lui, le père a donné tout son essence. Maintenant, après...
Aussi, la moitié. Peu importe, les de la moitié du...
C'est la fécondation.
C'est sûr.
Les de la moitié du chromosome.
Très bien. Rêver, hein. Le père a donné tout ce qu'il a. Donc il a donné...
Ou X ou Y, il a donné.
Très bien, donc il a donné le plus ou le moins, mais il a donné tout ce qu'il a. Ça veut dire que c'est pas qu'il a dit je donne mon cerveau...
Non, il a donné ou X ou Y, elle que X.
C'est le truc que... Ish mazri atrila yoledet zaha, isha mazri atrila yoledet nekeva. Non, pardon, ish mazri atrila yoledet nekeva. Si c'est l'homme qui envoie la semence en premier. C'est bon, enfin c'est ça, c'est lequel qui, c'est par rapport à ça que j'en vais déterminer est-ce que c'est un garçon ou une fille.
Tu peux finir ce que l'âme tu viens de dire.
Ah, l'âme en premier.
Tu te mouilles là, c'est cool, hein. Là, tu te mouilles, hein, parce que...
Bon, je vais expliquer après le cours.
Mais ça s'explique aussi scientifique.
Oui, parce que il me semble, j'ai entendu qu'aujourd'hui dans les fécondations in vitro, ils appellent ça. On est capable de, ils sont capables de gérer avec un certain taux de pourcentage. Si ce sera un garçon, une fille.
Le chromosome X est plus lourd que le chromosome Y.
Ils peuvent le faire.
Ah oui.
Pas à 100%. C'est pas à 100%.
Il est plus lourd, donc il met plus de temps.
Il met plus de temps, donc voilà.
On peut pas gérer à 100%, mais il paraît qu'on peut, on peut gérer. Je trouve ça, enfin, ça dépend des cas, mais on peut gérer à
certains pourcentages. Parce qu'il y en a qui disent tu peux choisir, alors que normalement il faudrait pas que ce soit choisi.
Qu'est-ce qui va se passer quand on aura des clones?
La problématique de l'éthique médicale.
Ah, il faudrait que la rabbanime... Quand on aura deux clones, ils auront la même neshama.
Déjà avec un, c'est du boulot.
Bon, j'espère que ma chère sera déjà là d'ici là, parce que sinon ça va être chaud.
Sinon ils vont nous cloner le machin.
Chacun son machin.
C'est pas dit. C'est une question de. Il n'y a pas de raison qu'il ne pourrait pas. Hein, à terme. Alors, dans les mots. Bon, mais je crois que c'est déjà l'heure. On ne va pas avoir besoin de finir. Et déjà 45. Bon, très bien. Juste, je finis dans les mots. Et Bezrat Hashem, bon, là, on n'a pas, bien heureusement, on n'a pas eu le temps d'expliquer la Shrina. On s'est focalisé que sur le corps. Mais au moins, qu'est-ce qu'on a compris dans les mots? Et la semaine prochaine, on refera un petit passage, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, chez Yeshla, Keneged, Ramar, Sakochot, Alalou, Veiné, c'est la suite, on va s'arrêter à Veiné. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'on conclut du cours d'aujourd'hui, on a démarré avec une question. La question qu'on a démarrée, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis que Dieu est plus présent dans certains endroits? Que Dieu est plus présent dans une synagogue, et que le Somam, Dieu est plus présent dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la grande question. Ça fait un an et demi qu'on a cette question qui nous trotte dans la tête. Donc ça, c'est la grande question. Hein, Yaakov ? Alors, on a dit que puisqu'on a du mal à comprendre, puisqu'on a du mal à comprendre, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se retourner vers l'homme. Et là, on a vu que chez l'homme, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc, on sait que la neshama, ça on le sait, que la neshama à la base, l'énergie de la neshama à la base, est une énergie qui n'est pas définie, d'accord, qui n'est pas différenciée. C'est-à-dire que c'est une seule énergie, c'est un seul bloc d'énergie. Et pourtant, on a démontré, on a expliqué, que cette énergie-là, quand elle arrive au cerveau, on est capable de dire que dans cette énergie-là, il y a une partie qui va être dédiée pour la vue, une partie qui va être dédiée pour lui, etc., pour chacun des membres du corps. Et que si on mélange l'un avec l'autre, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas de l'énergie en vrac. Alors, au début, tu me dis que c'est une seule énergie, et après, tu me dis que dès que ça arrive au cerveau, là, apparemment, il y a quelque chose qui va se passer. Alors là, on a expliqué, dans un langage kabbalistique, on a expliqué qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On a expliqué que qu'est-ce qui se passe quand on arrive, à la deuxième phase, à la phase du cerveau. Ce qui se passe à cette étape-là, c'est que l'âme divine, d'accord, on n'a pas parlé des goïms encore, hein, ça on verra la semaine prochaine, l'âme divine va rencontrer l'âme vitale, d'accord. Donc l'âme divine à la base, c'est une seule entité, mais quand elle va rencontrer l'âme vitale, apparemment cette âme vitale va être capable de décoder, de dire, ben moi je vais te montrer qu'en vérité il y avait une partie pour la vue, une partie pour ci, une partie pour ça. Je sais pas, c'est comme si, le seul exemple que je peux donner, c'est comme si j'avais une usine d'électricité, qui envoie de l'énergie pour tout le monde, et que tu vas être capable de me dire que l'usine, même si c'est une seule énergie qu'elle envoie, c'est l'énergie, c'est la même énergie, le même voltage, et pourtant tu diras que elle a dit ce voltage l'envoyer pour un tel, pour faire tourner telle usine, et ce voltage l'envoyer pour telle usine. Alors, donc apparemment c'est un certain paradoxe qu'on a ici, mais en tout cas, ce paradoxe existe. Que à la base, la Neshama, c'est une seule entité, mais dès qu'elle rejoint la Nefesh HaChiyunit, l'âme vitale, ça va se cloisonner en 248, donc en 248 compartiments, et après ça va être redistribué à chacun des membres. D'accord ? Et de manière à ce que si tu vas prendre à la fin chacun des membres, personne ne pourra se targuer de dire « moi j'ai plus la Neshama » que toi, puisque c'est la même Neshama. Mais pourtant, dans cette même Neshama, on a été capable de montrer comment en vérité, il y avait des compartiments, il y avait plusieurs caractéristiques. Donc on va appeler ça la théorie des trois étapes. On répétera bien la théorie de cette la semaine prochaine. On va expliquer ça par rapport à la Shrina. Vous allez voir, c'est très intéressant. Avec ça, on va comprendre beaucoup de choses. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu est partout. Et d'un autre côté, on dit que Dieu est plus présent dans certains endroits. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une Avera? Qu'est-ce qui se passe quand on fait une Mitzvah? On va comprendre beaucoup de choses qui étaient en suspens depuis le début qu'on a commencé à étudier le Tanya. C'est un chapitre qui est très important. Bezrat Hashem, la semaine prochaine.